RMC, les grandes gueules.
Julien Oudoul, député Rassemblement National de Lyon. Bonjour.
Bonjour.
L'imam Iqiyoussen est toujours sur notre territoire pour le moment. Vous attendez avec impatience qu'on le renvoie?
On ne sait pas où il est. Il a juste reçu une convocation de Monsieur Darmanin. Et c'est vrai qu'entre la convocation et l'expulsion, bah souvent il y a beaucoup de jours et il y a un gouffre. Nous, on attend clairement qu'il soit expulsé, qu'il reparte au Maroc. Et on va suivre ça de très près. Et on va demander à Monsieur Darmanin tous les jours où en est le dossier Iqiyoussen.
Mais vous trouvez pas un peu bizarre cette histoire quand même, parce que ça fait
il est en France. Qu'il reparte au Maroc,
s'il part. Non mais ça fait 20 pareil. Ans qu'il sévit. Et puis là d'un coup il y a une urgence à le foutre dehors.
Mais c'est tout le problème de ce gouvernement, c'est-à-dire que aujourd'hui Monsieur Darmanin s'inquiète du cas de Monsieur Iqiyoussen. Nous ça fait depuis 2016 qu'on dénonce les vidéos sur YouTube, qu'on dénonce les propos antisémites et homophobes. Cette personne a pu se répandre dans toutes les mosquées de France, a pu organiser des conférences, a pu tranquillement, en toute impunité, jamais on est venu le chercher. Et aujourd'hui, il y a M. Darmanin qui se réveille. Mais il ne s'agit pas d'une seule personne. C'est-à-dire qu'il y a des dizaines d'imams radicaux qui doivent être expulsés. Et on voit que M. Darmanin...
Vous avez vu qu'il y a des groupements de mosquées, molle. D'ailleurs, qui ont signé des communiqués de soutien à l'imam.
17 sur 2006.
D'ailleurs, mais comme les députés de la France Insoumise, comme M. Guiraud, le député de Roubaix, qui vient au secours d'Hassan Iqiyoussen, comme Rokhaya Diallo, qui est, j'ai vu des tweets mais hallucinants de Rokhaya Diallo.
Sont des complices. Ils cautionnent les propos, bien sûr,
ce sont des complices. En fait, ce sont les avocats de M. Iqiyoussen et donc de l'islamisme et des propos qui sont absolument abjects dans une démocratie telle que la nôtre.
Sont les complices de l'islamisme, vous dites?
Mais évidemment, nous avons aujourd'hui une frange de l'extrême gauche qui est totalement dans la roue de l'islamisme parce qu'il y a une partie de son électorat qui est islamiste, il faut bien le dire. Voilà, dans les territoires.
Être musulman, ça ne veut pas dire être islamiste.
Je fais la distinction. J'espère. Je l'ai toujours fait, vous savez. Voilà. Nous, on ne parle pas de musulman, on parle de français de confession musulmane.
Exactement.
Être musulman, c'est une opinion religieuse.
C'est une religion.
Et tout à fait respectable, qu'il faut respecter, la liberté de culte, etc. L'idéologie islamiste, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est placer la charia donc au-dessus des lois de la République, avec des dogmes, avec des pratiques qui sont totalement contraires au vivre en France.
Il est important de rappeler que les premières victimes de la charia et de l'islamisme sont des musulmans à travers le monde et pas qu'en France.
Oui, moi je parle de la France.
Voilà, mais aussi en France. On ne fait pas exception.
Mais vous savez, en France, ce sont surtout les Français qui pâtissent et qui souffrent du développement de l'islamisme, et notamment les Françaises.
Mais donc, il fait un coup politique, Gérald Darmanin, là?
Oui, mais Monsieur Darmanin, donc sur le volet sécuritaire comme sur le volet migratoire et de la lutte contre l'islamisme, aujourd'hui dans la communication permanente, voilà, il y a rien derrière.
Quand on lance une procédure d'expulsion d'un imam aux propos antisémites, homophobes, anti-républicains, on n'est pas dans la communication, on est dans l'action.
Oui, enfin on est dans la communication parce qu'il n'est pas encore expulsé. Donc nous allons attendre. Et surtout, M. Darmanin, il ne tombe pas, de la veille. Il a été nommé ministre il y a 3 ans, 4 ans. Donc il est aux responsabilités depuis longtemps. Il n'a rien fait sur le volet migratoire. Je rappelle qu'on a 400 000 personnes qui viennent chaque année sur notre territoire. Il n'a rien fait pour fermer les 440 mosquées radicales de notre pays. Il n'a rien fait pour expulser tous les
imams radicaux. Vous sentez ce chiffre de 440 ?
C'est ce que j'allais dire parce que...
C'est le chiffre des renseignements sur des mosquées, des lieux de culte qui sont référencés, qui sont suivis.
Mais vous les avez, ces chiffres officiels?
Ah ben c'est les chiffres officiels, bien sûr.
On n'a pas les mêmes chiffres.
Moi j'ai 20%, je le sais, dans ma région Bourgogne-Franche-Comté, j'ai 20% de lieux de culte musulmans qui sont radicalisés.
Et ces chiffres sont suivis.
C'est le renseignement territorial.
Qui vous les donne?
Bien sûr, enfin qui nous les donne. On les a notamment sur un certain nombre de dossiers.
Non mais moi je suis toujours surpris par les chiffres.
C'est comme la délinquance
identifiée. Non mais c'est comme la délinquance avec les immigrés, puisque j'ai entendu que Marine Le Pen avait dit récemment là au mois de juin que 97%, 95% des problématiques étaient liées aux immigrés. Est-ce qu'à un moment donné dans cette
de rue.
Non mais est-ce que dans cette société qui est la nôtre, hein, nous tous, est-ce qu'à un moment donné sur ces foutus chiffres on va s'entendre, c'est-à-dire que le débat des politiques par rapport aux chiffres, il ne peut pas y avoir de contestation sur les chiffres. Donc à un moment donné, il va falloir... Parce que c'est pas sérieux. Je ne peux pas entendre, moi, je ne peux pas comprendre en tant que citoyen que quelqu'un du RN va nous dire que 97% des problèmes dans la rue sont liés à des immigrés, que le mec des LFI va me dire ah mais non mais c'est pas vrai du tout, ça m'intéresse plus en fait. Ce qui m'intéresse c'est comme en écologie, comme des trucs, c'est comme dans le médical,
mais
c'est la vérité.
Les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur.
Non mais être surveillé ne veut pas dire être radicalisé.
Si on prend quelques chiffres, parce que là vous contestez tous les chiffres.
Non, je conteste pas. Je dis que chacun d'entre vous, dans plein de partis politiques, vous vous pointez avec vos chiffres, ça fait 50 ans que ça dure, et que quand on va creuser, quand on fait du boulot derrière, et là c'est pas moi qui le fais, c'est des gens dont c'est le métier, on s'aperçoit que c'est quand même sacrément tordu, et dans le sens des intérêts, c'est une histoire de dire aux citoyens, on a des débats politiques sur des chiffres qui tiennent la route et qui sont béton. Bon, c'est tout. Je veux dire, à un moment donné,
on peut, si vous le voulez, éluder les chiffres. Il y a 23% d'étrangers dans nos prisons. C'est une réalité. Il y a notamment une surreprésentation des étrangers, des mineurs isolés dans les agressions sexuelles dans les transports parisiens. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur. On peut, si on veut, éluder les chiffres. Mais il y a une réalité qui est vécue par tous les Français. Tous les Français savent, et notamment les Françaises particulièrement, que ce qui cause de l'insécurité dans l'espace public, dans les transports, en allant au travail, tous ceux qui harcèlent, tous ceux qui sont aujourd'hui dans le pourrissement du quotidien, sont de près ou de loin liés à l'immigration.
Toutes les affaires qui sont médiatisées sur les violences faites aux femmes, je suis désolée, ce ne sont pas des mineurs isolés ou des étrangers ou des personnes en situation irrégulière.
C'est que ce sont des personnes
connues. Quand nous sommes des femmes... Et j'en fais partie. Moi, j'ai été harcelée à mon travail. C'était pas par un mineur isolé, et c'était par quelqu'un de puissant et qui portait un nom bien français. Et j'ai dû quitter mon travail. Donc, en fait, les femmes, nous sommes harcelées dans la rue et au travail parce que nous sommes dans une société patriarcale. Par tous les gars qui ont un problème en fait en dessous de la ceinture. J'ai par tous les gars qui ont un problème en dessous de la ceinture. Et ça, c'est pas une question de religion ou d'éducation. C'est une question où tu as un problème avec ce qui se passe en dessous et tu veux à un moment donné avoir dans ton lit tout ce qui n'est pas à toi.
Y compris
dans l'espace public, il y a pas que des mecs sont mineurs isolés qui nous harcèlent dans la rue. Moi, je n'ai pas de voiture. À Paris, à Marseille et partout, je suis dans les transports en commun, dans les trains, dans les bus, dans les métros et à pied, et je ne me fais pas siffler que par des mecs qui s'appellent Mohamed. Faut arrêter de fantasmer à un moment donné. Et heureusement, parce que j'espère que mon corps plaît pas que au Mohamed.
Julien Audeux, non, mais moi je suis étonné sur ces chiffres, justement, des
violences
radicales, parce que à la rentrée, on vous a promis. Et quand je dis on vous a promis, c'est à la représentation nationale, un grand débat, il y a l'adjectif grand débat sur l'immigration. Donc ce sera l'occasion de ressortir ces chiffres. Mais pourquoi un grand débat? Pourquoi ne pas appliquer la loi maintenant?
Merci.
Mais c'est ce que nous demandons, effectivement. À quoi servirait un grand débat pour perdre du temps? Le constat, nous le connaissons. Alors nous, effectivement, si M. Darmanin reprend nos propositions, on est très contents. Si tous les délinquants et criminels étrangers sont expulsés et qu'ils trouvent un petit peu de courage politique pour le faire, mais nous nous satisfaisons de ça. Mais on voit bien qu'avec ce gouvernement, on enchaîne les grands débats, comme Monsieur Papendiaï qui va organiser des grands débats dans tout l'établissement scolaire. Mais on connaît les constats. Ça fait des années, ça fait 5 ans qu'ils sont au gouvernement. Je veux dire, pourquoi continuer des grands débats? On a eu le grand blabla après les gilets jaunes qui n'a servi à rien. On a un grand débat sur l'hôpital, sur l'éducation, sur la sécurité, sur l'immigration. Est-ce qu'on pourrait, dans l'action, un petit peu, fort du constat qui est partagé, je pense, par une majorité de Français, et aujourd'hui, il y a une urgence sur tous les sujets.
Mais vous aviez déjà alerté sur les vidéos YouTube?
Bien sûr, mais moi,
dans
ma région, parce qu'il était venu en Bourgogne-Franche-Comté, moi, j'avais alerté dès 2018.
D'accord.
Dès 2018, sur Hassan Iqiyoussen, sur les ramifications dans la région. Bien sûr, exactement. Et on avait alerté depuis 2016 au niveau du parti pour dénoncer.
Bah, 30 millions de vues, c'est énorme.
30 millions de vues dans le monde, mais 30 millions de vues en France. Mais arrêtez de
dénoncer
les chiffres. Moi, je déteste qu'on donne plus de pouvoir à des gens qui n'en ont pas. 30 millions dans le monde, c'est pas 30 millions en France.
Julien Doul.
Il tient des propos, mais
Sarah,
vous ne vous rendez pas
compte. Sur ce plateau, la première qui bute, c'est moi. Parce que je ne suis pas la musulmane qu'il faut. Donc je suis la cible. Les gens comme moi sont la cible.
Enfin, la juive, ça ne va peut-être pas passer non plus.
Mais je vous promets que c'est les musulmans.
Vous serez butés en même temps toutes les deux.
Si tu veux, voilà. Mais en tout cas.
On voudrait l'éviter, justement. C'est surtout ça, c'est faire de la prévention et d'éviter les discours du haine.
Sauf qu'à un moment donné, je refuse qu'on donne à ces gens, à ce type de personnages, plus de pouvoir qu'ils en ont vraiment quand on rabâche aux Français.
Il a un pouvoir médiatique.
C'est pas 30 millions.
Attendez, on a un invité.
Il a un pouvoir médiatique, il a un pouvoir d'influence. quand il va dans les mosquées, quand il se répand sur YouTube, mais il est vu par des millions de gens.
Et des gens vulnérables.
Et des jeunes. Et des jeunes qui pensent que c'est le Coran, qui pensent que c'est la religion, qui pensent qu'il faut le suivre cette voie. Alors que quand on, encore une fois, quand on souhaite la mort des homosexuels, quand on s'en prend aux juifs, quand on est misogyne, ce n'est pas la voie à suivre effectivement pour la jeunesse. Et c'est contraire à nos règles, contraire à nos lois, contraire à nos principes. Donc il est dangereux. Oui. Donc si on le laisse faire en disant, mais de toute façon, c'est qu'une personne, il ne faut pas lui donner trop de pouvoir, on ne fait rien et on le laisse convertir un certain nombre d'adeptes qui ensuite pourront passer à l'acte. C'est ça le danger.
Ludovito. Je ne suis pas du tout RN. Néanmoins, je suis un peu d'accord sur ce grand débat. Quelle fumisterie! Mais quelle fumisterie! Dans ce pays, depuis 5 ans, comme on ne solutionne rien, on se fait des débats, des rapports. Et à la fin, il y a le grand Ségur de la santé. Elle est belle l'histoire. Regardez où on en est aujourd'hui. Ce grand débat, ça va aboutir à rien. Mais je m'excuse. On a bien fait des élections législatives. Quel est le représentant du peuple? C'est bien le député. Donc vous avez choisi votre député qui doit porter vos idées. Pourquoi c'est pas les députés qui font les lois et qu'on donne ça à des grands débats, à des grandes réunions?
Mais là, le débat, il sera au Parlement.
Mais oui, mais
on a des lois à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est justement ça, ce grand débat sur l'immigration. C'est de manière, ce que dit Darmanin, à passer à la vitesse supérieure. Non,
excusez-moi. Appliquer les lois. Appliquer les lois qui sont déjà en vigueur et on pourra déjà avancer. Mais si on commence à discuter de quoi? Ok, il va y avoir des discussions. Mais les lois sont là. Elles sont votées. Elles sont dans le code pénal.
Mieux qu'un grand débat, Marine Le Pen avait proposé un grand référendum. Référendum sur l'immigration pour mettre fin au droit du sol. Référendum sur l'immigration pour expulser des délinquants et criminels étrangers. Référendum pour couper les pompes aspirantes de l'immigration et pour instaurer la priorité nationale. Ça, ça aurait du sens.
Le droit du sol, les gens sont nés ici, ils n'ont pas immigré.
Je pense que les Français, aujourd'hui, n'en peuvent plus de l'immigration, à la fois d'un point de vue sécuritaire, ils le constatent tous les jours, mais aussi d'un point de vue social. On demande aux Français de se serrer la ceinture de plus en plus et en même temps, on gaspille des milliards d'euros dans l'immigration, une immigration qui ne nous rapporte rien, il faut bien le dire.
Mais
excusez-moi, on s'arrête. En termes d'économie,
Il y a une immigration qui ne nous rapporte rien et au contraire qui coûte très cher. L'aide médicale d'État.
Les immigrations.
J'ai dit une immigration.
Quand vous dites
droit du sol, moi je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi je suis née ici, ma mère est arrivée à 5 ans, je suis née ici. Mon grand-père s'est battu pour la France, les oncles de ma mère sont morts pour la France au front. La France, c'est mon pays, et je suis devenue française parce que le droit du sol. Donc je ne suis pas une immigrée, et je deviens extrêmement en colère, et peut-être des fois violente dans mes propos, quand on me rabat encore, après 45 ans de vie dans ce pays, de cotisations, d'études. J'aime ce pays, c'est le mien. J'aime la Tunisie parce que c'est le pays de mes aïeux. Je suis partie le découvrir. Je suis partie découvrir les saveurs, les odeurs. D'où est parti mon grand-père? Quelle misère il a coûté? Pourquoi il est venu? Je me suis renseignée sur l'histoire de mes aïeux, mais je refuse qu'on me dise encore aujourd'hui que je ne suis pas française autant que vous, monsieur Oudou. Et le droit du sol, c'est un droit qui est fondamental. Nous sommes nés ici. Nous ne sommes pas des immigrés et nous sommes fatigués de l'entendre.
Non, mais attendez. Excusez-moi. La question, c'est pas de distinguer qui est bon français ou qui mérite de rester français. La question, c'est aujourd'hui que nous ne pouvons plus accueillir 400 000 personnes par an. C'est tout. Nous ne le pouvons plus parce que nous avons un système social qui est à bout de souffle. Nous ne le pouvons plus aussi parce qu'une partie de l'immigration génère de l'insécurité. C'est un fait. Regardez dans les attaques au couteau ces derniers jours. C'était principalement des demandeurs d'asile.
Qui représentent une infime partie de l'immigration.
C'est pas des généralités. Je pense que les Français savent très bien faire la distinction. Et les Français sont un peuple généreux. Nous sommes peut-être le peuple le plus généreux
parce
du monde.
Parce que nous allons aussi beaucoup prendre, parce qu'il y a aussi une immigration économique. Parce que si on arrêtait d'aller piller les richesses en Afrique, parce que la colonisation physique a arrêté.
Ah non,
c'est la caricature. Les plus grands groupes industriels exploitent l'Afrique.
On va pas refaire le débat sur la colonisation.
C'est pas la colonisation. Je vous parle d'économie. Il y a des grands groupes qui exploitent la terre, les richesses en Afrique.
Et donc ça justifie d'avoir des violences systémiques.
Alors il nous reste 3 minutes, Julien Oudoul, à la rentrée. Il y a le rendez-vous du Rassemblement National aussi. Il y aura le congrès.
Oui.
Vous avez choisi votre candidat ?
Moi, j'ai choisi Jordan Bardella. J'ai choisi de le parrainer, de le soutenir, puisque je considère qu'on ne change pas un général qui était victorieux. On le maintient pour pouvoir gagner d'autres batailles. Il a fait preuve d'un talent tout au long de ces derniers mois, à la fois pour porter le parti à un score historique à la présidentielle avec Marine Le Pen, et puis à ses 89 députés. Nous lui devons une grande partie de ses victoires, donc il faut continuer avec lui. Je considère que c'est un symbole d'avenir, un symbole de compétence. Et je pense que c'est le meilleur pour nous porter en 2027 à la victoire suprême.
D'accord, donc pour vous, c'est Bardella, président du Rassemblement National, et Bardella 2027.
Non, Bardella.
Non, mais.
Et Madame Le Pen. Savez,
non, mais Marine Le Pen. C'est le mieux placé pour nous porter à la victoire en 2027.
À la tête du parti.
Ah oui, moi j'avais
mais à la tête du parti.
Non, mais est-ce que vous souhaitez que ce soit même lui en 2027 après, mais ça, on verra, après les échecs de Marine Le Pen?
Ma question, elle est simple. Encore trop tôt. Vous savez, Marine Le Pen,
Julien Andoul, est-ce que vous souhaitez que 2027 soit la bannière Bardella à la présidence de la République?
Je souhaite que ce soit la bannière de la France, déjà.
Non, 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 mais Marine Le Pen.
Je ne vais pas vous répondre alors que nous sommes à 5 ans de l'échéance présidentielle. Aujourd'hui, nous avons une force considérable.
Oui, non, mais est-ce que votre conviction, c'est que ce soit Jordan Bardella le mieux placé pour 2027?
Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une chance. Nous avons à la fois le mouvement présidé par Jordan Bardella, et j'espère qu'il le sera toujours dans quelques mois, et le groupe politique avec donc 89 députés.
D'accord.
Donc nous avons à la fois Marine, et qui est présidé par Marine Le Pen. Marine Le Pen décidera dans quelques années si elle décide de poursuivre. Et est-ce nous que verrons la situation politique.
Mais vous, votre sentiment, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose qu'elle se représente en 2027?
Écoutez, il y a un lien quand même charnel entre le peuple français et Marine Le Pen. Et un lien d'ailleurs qu'on ne trouve chez aucun autre politique. Moi, je l'ai accueilli 3 fois dans mon département. Il y a quand même une fascination, il y a quand même une symbiose entre les catégories populaires, entre le peuple de France et Marine Le Pen. Et je pense que...
En symbiose avec Marine Le Pen.
Compte tenu de la progression qui est la nôtre, je pense que 2027 peut être celle de la victoire de Marine Le Pen.
Et au congrès du Rassemblement National, parce qu'il fêtera ses 50 ans en même temps. Est-ce que...
Pas en même temps.
C'est le 50e anniversaire du Rassemblement National, ex-Front National. Jean-Marie Le Pen doit y participer ou pas?
Non, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Jean-Marie Le Pen, c'est le Front National d'hier et le Congrès, ce sera le Front National de demain.
Oui, mais c'est les bases de la maison.
C'est fini.
C'est les bases de la
maison. J'ai une question fondamentale. Désolé, mais j'ai 10 secondes. Je ne comprends pas votre discours tout à l'heure sur, et que j'ai trouvé correct, sur le fait de dire l'homophobie, tout ça est inacceptable. Comment vous pouvez expliquer que votre présidente ait des amitiés fortes avec des Viktor Orban ou des gens de l'extrême droite à l'échelon planétaire qui sont homophobes, qui cristallisent les sociétés? Je parle même pas de Trump et de son passage apocalyptique à la surface de la planète. Je ne comprends pas.
5 secondes.
Oui, 5 secondes. Donc,
et comment vous,
j'aimerais que ça
comment
marche
vous
dans votre génération
que monsieur Macron qui défend justement la lutte contre l'homophobie, reçoit le prince héritier d'Arabie Saoudite, ou, encore une fois, l'homosexualité passible de mort.
Ah, mais je ne l'explique
Saoudite.
Pas non plus.
Comment vous l'expliquez?
Mais je suis assez d'accord.
Comment vous l'expliquez?
Comment vous expliquez qu'on
organise la Coupe du Monde au Qatar et qu'on ait des relations extrêmement étroites avec le Qatar?
Finalement, vous renvoyez à une relation qui pour vous n'est pas normale, à une relation qui pour vous n'est pas normale.
Non, bah oui, mais si c'est votre réponse, ce n'est pas une réponse.
On ne partage pas tout du pouvoir de M. Orban. En Hongrie, on partage notamment la défense de l'identité, la défense des frontières et d'une civilisation européenne.
Merci Julien Andoul.
Excusez-moi, je veux juste dire ça parce que c'est important que moi je le dise. Vous venez de la gauche, il faut le rappeler aux téléspectateurs et aux auditeurs. Vous avez un parcours qui est assez atypique.
Il avait 12 ans.
Il avait 12 ans, oui, mais il en a 17, on va dire, parce qu'il est encore jeune. Et je trouve très dommage que des gens qui soient aussi talentueux que vous soient dans ce parti-là. C'est le seul défaut que je vous reconnais aujourd'hui en direct.